Vous écoutez, on lit pour vous.
Yes, we cat, un texte de Marie-France Bazot, paru le 13 août 2024 dans la presse. Jamais je n'avais ressenti le besoin de parler du fait que j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant. C'est une décision personnelle, instinctive et raisonnée à la fois. Ce n'est pas un sujet d'intérêt dans ma vie, je n'y pense jamais. Je suis juste complète sans enfant. Rarement ai-je entendu des commentaires sentencieux face à mon choix. Ou alors, on n'a jamais osé me les faire en pleine face. Ces derniers temps, j'ai toutefois réfléchi davantage à la question. Plusieurs jeunes et très jeunes femmes déclarent qu'elles ne mettront pas d'enfants au monde pour des raisons liées au changement climatique ou à cause de l'insécurité générale du monde. Leur prise de position dépasse le personnel et devient un geste politique. L'intuition que j'avais que ce choix personnel était aussi social et politique s'est confirmée quand J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, y est allé de cette déclaration pour disqualifier la vice-présidente Kamala Harris sans enfant. Les femmes à chat sans enfant ont des vies misérables. L'attaque a fait réagir. Des Childless Cat Ladies for Kamala Harris ont donné des milliers de dollars à sa campagne. L'actrice Jennifer Aniston, peu connue pour son engagement politique, s'est indignée. Stéphane Laporte et Elisabeth Labelle ont réagi ici. L'attaque de Vance visait la candidate à la présidence, mais dans les faits, elle heurtait toutes les politiciennes sans enfants de toutes les allégeances, les hommes politiques sans descendance, les femmes sans enfants en général et les chats. Difficile de faire plus de dommages collatéraux. Il faut dire que ce parti républicain a un historique douteux avec les félins. Donald, ne se vantait-il pas d'attraper les femmes par le poussi? Encore aujourd'hui, les femmes sont soumises à une pression sociale qui les oblige à se justifier si elles ne sont pas mères, pression particulièrement cruelle pour celles qui souffrent d'infertilité. L'infécondité, surtout volontaire, est mal comprise, peu acceptée. Traiter une femme de « childless cat lady » sur la scène politique, c'est l'enfermer dans une case préjudiciable pour atomiser son pouvoir. Elle devient dangereuse. On sous-entend qu'elle n'accomplit pas son devoir qui serait d'enfanter. Comme si pour être une vraie femme, il fallait être mère. Ça parle beaucoup de cette velléité historique de vouloir contrôler le corps des femmes. À plus vaste échelle, ça va dans le même sens que les attaques répétées contre le droit à l'avortement et à la contraception. Tout ça confirme que la question de la non-maternité est un enjeu politique, pour l'instant localisé aux États-Unis. Les femmes à chat sans enfants ont aussi été des sorcières. L'insulte du sénateur Vance nous ramène à ces temps où on traquait les femmes indépendantes qui, par choix ou par destin, n'avaient pas de descendance. Depuis toujours, des hommes décident de la place que devraient occuper des femmes. Il n'a rien inventé. Une femme sans enfant n'est pas une rare exception. Dans toutes les sociétés, elle représente une proportion non négligeable des personnes. Au Québec, au début du XXe siècle, elles auraient été près du cinquième de la population féminine. Par refus, par abnégation ou pour des raisons médicales, on ne le saura pas. Ces histoires sont discrètes. Elles étaient religieuses, enseignantes, soutien de parents âgés, vieilles filles. Remontez dans votre histoire familiale. Vous trouverez ces tantes bien-aimées qui, hardies, défrichaient des voies inédites, des cousines qui s'occupaient de leur fratrie, des femmes qui aidaient, instruisaient, soignaient, à une époque où le filet social dépendait grandement d'elles. Des femmes qui, souvent, ne s'estimaient pas faites pour la maternité, mais qui ne le criaient pas sur les toits. L'histoire a peu étudié le cas de ces femmes si nombreuses. Les statistiques sur le sujet sont chiches. Les nullipares sont sous-étudiées. En fouillant bien, on déniche des bribes d'informations. En France, en 2022, 13% des femmes déclaraient dans un sondage ne pas vouloir d'enfants. Et en 2021, au Michigan, 21,6% des adultes affirmaient ne pas en vouloir. Un adulte sur cinq. Une étude de 2018 du CSF montre que 52,7% des Québécoises atteignent la trentaine sans avoir enfanté. Ce n'est pas qu'elles n'auront jamais d'enfants, mais plus de la moitié, à 30 ans, ça réduit le nombre de mères potentielles. Les femmes sans enfants sont des belles-mères, s'occupent de leurs proches, de leurs parents, d'éducation, de soins aux personnes âgées. Elles sont des tantes, des amies qui ont choisi leur famille, des femmes de carrière qui font avancer la société à leur manière. Elles portent aussi des causes. Les enfants qu'elles n'ont pas mis au monde sont remplacés par leurs prochains. Elles ont toujours été et sont encore un rouage social sur lequel tous comptent. Être sans enfant est un choix féminin et féministe, et c'est ce choix que des politiciens veulent contester aux Américaines. À l'heure où les politiques sociales conservatrices fleurissent et où la religion revient en force dans l'espace public, pesant sur le corps des femmes, les femmes à chat sont de discrets symboles de résistance. Je suis une femme à chat sans enfant. Je ne me sens ni diminuée, ni égoïste, ni incomplète, ni inquiète pour mes vieux jours. Je contribue, je crois, à ma société. Comme plein de femmes au Québec, comme plein d'Américaines. Ce texte a été lu et approuvé par Billy, chat indépendant. C'était « Yes, we cat », un texte de Marie-France Bazot, paru le 13 août 2024 dans la presse.
La rentrée littéraire 2024, littérature étrangère, 4 traductions attendues. Des propositions de lecture d'Audrey Martel, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Dans « Seul restait la forêt » chez Buchet-Chastel, un roman salué par la critique lors de sa parution en version originale, Daniel Mason fait d'une maison le personnage principal d'une fresque historique se déroulant sur près de 400 ans. Cette maison, dont la première pierre sera posée par un couple illicite fuyant des villageois puritains, sera tour à tour habitée par un ancien soldat passionné par la culture des pommes, un chasseur d'esclaves, un peintre et un journaliste. Elle verra naître et s'éteindre des hommes, des amours, des familles et des gloires. Avec un format éclaté qui n'est pas dénué d'humour, le roman profite d'une excellente traduction française signée par Claire-Marie Clévy, qui n'enlève rien au texte original, renfermant certains passages si exquis qu'ils rappellent les maîtres de la littérature tels Flaubert et Hawthorne. Abram Verghese est d'origine indienne. Il a grandi en Éthiopie et demeure maintenant aux États-Unis, où il pratique et enseigne la médecine. Le Pacte de l'eau, chez Flammarion, son deuxième roman, se situe dans le superbe état du Kerala, largement bordée par l'océan Indien, où l'eau est omniprésente. Sur une barque, une jeune fille est menée à la rencontre de son futur époux. Ce sera un bon mariage, certes. Toutefois, une rumeur court au sujet de l'homme qu'elle s'apprête à épouser. Quelque chose comme une malédiction semble peser sur sa famille, voulant qu'à chaque génération, l'un d'entre eux meure noyé. S'ouvre ainsi une grande fresque familiale se déroulant entre 1900 et 1977 et qui a déjà conquis plus d'1,5 million de lecteurs dans sa version originale. Cet automne marque un tournant dans la carrière de Sally Rooney, puisque la parution d'Intermezzo chez Gallimard paraîtra simultanément à travers le monde, un sort réservé à quelques grands auteurs seulement. En 7 ans et 3 romans, la jeune Dublinoise peut donc se targuer d'être désormais un phénomène mondial. Ce 4e livre démontre, à juste titre, une certaine maturité en s'éloignant légèrement du style propre à Rooney jusqu'à présent. Exit la narration très factuelle et les personnages féminins en quête d'amour. Ce roman-ci raconte plutôt l'histoire de deux frères que tout sépare, mais qui se réuniront au moment de la mort de leur père. En fine observatrice de la société actuelle, Rooney offre encore une fois un roman mordant et addictif. Un jour d'avril, chez Seuil, marque le retour à la littérature très attendue de Michael Cunningham, l'auteur du roman « Les heures » que nous n'avions pas lu depuis 2016. Dans ce nouveau livre à la construction surprenante, nous rencontrons une famille à 3 périodes de son existence. Chaque 5 avril, entre 2019 et 2021. Cette galerie de personnages habitant Brooklyn nous donne à voir l'amour qui va et vient, le vieillissement et les conflits de toutes sortes. La famille, à l'harmonie vacillante, parviendra-t-elle à retrouver ses repères à travers les petits et grands bouleversements de la vie? C'est avec l'écriture élégante qui a fait sa renommée que Cunningham parvient encore une fois à capturer les moments qui donnent du sens à l'existence. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature étrangère, 4 traductions attendues. Des propositions de lecture d'Audrey Martel, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Marcher dans les pas des Ursulines de Québec, un texte de Caroline Montpetit, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir. On dit que Marie de l'Incarnation a commencé à enseigner le lendemain de son arrivée en Nouvelle-France, en 1639. Elle le faisait sous un frêne, où des filles autochtones venaient la rejoindre. Cet arbre, autour duquel a ensuite été érigé le monastère des Ursulines de Québec en 1642, a été détruit par une tempête il y a une centaine d'années. Mais 2 autres frênes ont été replantés depuis au même endroit. Ce frêne et ses descendants symbolisent bien l'enracinement des œuvres des Ursulines au Québec, contre vents et marées. Quelques 385 ans après leur arrivée, l'institution de la rue du Parloir dans le Vieux-Québec continue d'accueillir des élèves du primaire, bien mis dans leur uniforme quadrillé. À l'été 2024, à l'occasion de son 385e anniversaire, l'école des Ursulines ouvre pour la première fois ses portes au grand public. Cela se fait sous l'égide du pôle culturel du monastère des Ursulines, créé en 2016 par les religieuses pour assurer la mise en valeur de leur patrimoine. Il y a plusieurs années déjà que les dernières Ursulines de Québec ont laissé le monastère pour s'installer dans une résidence pour personnes âgées de Beauport. mais les murs du monastère continuent de vibrer des mille péripéties qui ont façonné leur histoire et la nôtre, l'enterrement précipité de Montcalm dans la chapelle, au moment de la conquête, le procès de la Corriveau, survenu en ces murs en 1760. Les incendies qui ont ravagé à deux reprises le monastère, la refondation de l'enseignement des Ursulines au 19e siècle. La première école. En tout, ce sont 17 bâtiments du Vieux-Québec qui relèvent toujours de la fiducie formée par les religieuses en 2021 pour veiller à l'avenir de leurs avoirs. Cet été, on pourra visiter le site de la toute première école des Ursulines, à laquelle on accède par le vieil escalier de bois Saint-Augustin. Au bas de cet escalier, une porte donnait sur le fleuve et une autre sur la forêt, d'où venaient les élèves autochtones au premier temps de l'institution. Certaines familles déposaient là des sacs de grains ou d'autres denrées pour payer pour les cours. Pour les autochtones, c'était gratuit, précise Johan Bonnet, qui nous fait visiter les lieux. Elle venait naturellement, affirme Sophie Limoges, directrice du pôle culturel. Les mères amenaient leurs filles. Les premières Ursulines vont apprendre plusieurs langues autochtones. Elles écriront des dictionnaires en langue iroquoise et en langue algonquine. Elles vont aussi beaucoup utiliser la musique dans l'approche avec les jeunes. En fait, elles ont traversé l'océan avec une viole de gambe, poursuit-elle. Aujourd'hui encore, la musique occupe une place prépondérante dans l'école. À l'étage, qui lui est consacré, les pianos sur lesquels tant de petites mains se sont posées sont chargés d'histoire. Rapidement, les Ursulines enseignent aux jeunes Françaises, puis aux jeunes Anglaises après la conquête, et aussi, selon les vagues de migration, aux Irlandaises, aux Écossaises et aux Américaines. Des archives à perte de vue. Depuis 2016, le pôle culturel du monastère des Ursulines gère non seulement le musée et les collections de l'institution, mais aussi ses précieuses archives. Présentement, seulement 2% d'elles sont exposées au public. En tout, il y a de 50 000 à 60 000 artefacts ou œuvres d'art, poursuit Mme Limoges. Si on mettait côte à côte tous les documents du fonds d'archives, on couvrirait un demi-kilomètre. En plus de l'école, les visiteurs ont accès au musée, 6 dans l'ancienne maison de Madeleine de la Pelletrie, où les Ursulines sont venues se réfugier lorsque le feu a dévasté le monastère, et à la chapelle. C'est là qu'a reposé durant des siècles le corps de Louis-Joseph de Montcalm, enterré en catastrophe après son décès, avant d'être réinhumé avec ses compatriotes au cimetière de l'Hôpital général de Québec. Pendant des années, son crâne y a été exposé à la vue des élèves. Si on en croit la légende urbaine de l'époque, il y avait eu un boulet de canon qui aurait fait un trou là, lors du bombardement par les Anglais. Puis on y aurait enterré Montcalm en pleine nuit. À l'époque, l'information était secrète, explique Johan Bonnet, qui nous fait visiter les lieux. Les Anglais qui viennent de prendre la ville ont carrément occupé le monastère. Au début de la colonie, les Ursulines étaient renommées pour leur broderie, dont on peut énumérer quelques exemplaires. Marie Guyard de l'Incarnation, alias Veuve Martin, avait dirigé en France une entreprise de textile avec son mari avant de venir s'établir en Amérique. Mais à partir du 19e siècle s'opère une sorte de refondation de l'institution qui deviendra à l'avant-garde de l'enseignement donné aux filles sous la tutelle de la révérende mère Marie-Louise McLaughlin et de l'aumônier Thomas Maguire. À partir de ce moment-là, les Ursulines vont avoir des approches plus basées sur l'observation, la compréhension des phénomènes. Les sciences vont prendre beaucoup plus d'espace, poursuit M. Bonnet. On va enseigner la chimie et la physique, les mathématiques, les sciences naturelles, l'astronomie. Les Ursulines vont chercher les meilleurs instruments. À cette époque, poursuit-il, les Ursulines font venir des écrits de partout dans le monde pour être à la pointe des développements en pédagogie. Femmes de tête et audacieuses, les Marie de l'Incarnation et Madeleine de la Peltrie ont ouvert la voie à toute une suite de femmes instruites qui se sont distinguées. Louise de Ramsay et Marguerite d'Iouville au 18e siècle, Laure Gaudreau, pionnière du syndicalisme québécois, et Laure Conant, première romancière canadienne au 19e siècle, Simone Hudon, peintre et graveuse du 20e siècle, l'autrice de polar Christine Brouillette aujourd'hui. Cloîtrées, les religieuses n'entretenaient de contacts externes qu'avec leurs élèves, et celles-ci adoptaient une partie du mode de vie des religieuses. En témoignent encore les grilles du parloir, derrière lesquelles les jeunes filles se postaient lors de la visite de leurs parents. Au réfectoire, les repas seront pris en silence jusqu'au 20e siècle et les élèves devaient procéder par signe pour demander du sel ou du dessert, raconte Johan Bonnette. Les vieux planchers qui ont craqué sous leurs pas sont désormais prêts à accueillir les visiteurs du 3 juillet au 3 août prochain. C'était « Marcher dans les pas des Ursulines de Québec », un texte de Caroline Montpetit, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir.
Les vacances? Quelles vacances? Un texte de René Lachaine, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir. Vacances. Vacances? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Un vacancier peut-il me dire ce que sont les vacances pour quelqu'un comme moi qui n'est plus sur le marché du travail? Quelle différence y a-t-il entre vacances et retraite? Si je ne travaille plus, suis-je en perpétuelles vacances? Non. Car vacances signifie pour la plupart des humains repos total, voyage, dépaysement, dépenses aussi. Cela veut dire aussi suspension pour un temps des travaux domestiques, du ménage, de préparation des repas. Ce qui voudrait dire que, si on reste chez soi, sur sa terrasse, dans son jardin, si on continue à s'occuper du ménage, du lavage et des repas, on ne peut pas dire que nous sommes en vacances. Je serais porté à croire qu'en effet, il est difficile de se sentir en vacances si on reste chez soi. Si, en plus, on ne change pas ses habitudes et sa routine, si on continue le train-train quotidien, c'est tout à fait impossible. Début. Autre chose essentielle pour se sentir en vacances. Il faut savoir à partir de quel jour débute ce temps de vacances et à quel jour il se termine. Et il est certainement souhaitable que l'on connaisse un peu à l'avance ces deux dates. Il faut que le temps de vacances ait été, pendant un certain temps, du temps à venir. Si par hasard, il arrive que nous connaissions un certain nombre de journées tranquilles, on ne peut pas considérer ce temps comme des vacances. On ne peut pas dire « Ah, tiens, j'étais en vacances et je ne le savais pas ». En effet, le temps de vacances, qu'il dure quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, doit être un temps que l'on savoure à l'avance. Un temps que l'on espère pendant un certain temps. Il faut que l'on ait l'occasion de vivre de multiples fois en pensée cet heureux temps avant de le vivre dans la réalité. On doit pouvoir contempler ce temps devant nous, compter les jours qui nous en séparent, édifier des projets. On ne peut tomber en vacances soudainement, comme ça, un matin, après avoir reçu un appel du patron. « Jean-Paul, à partir d'aujourd'hui, tu es en vacances pour 2 semaines. » Ou pire, « Jean-Paul, reste chez toi aujourd'hui. Ce sera une de tes belles journées de vacances. » Mais je t'attends demain à l'heure habituelle. Car, autre condition importante pour se sentir en vacances, il faut disposer d'un certain nombre de journées de vacances consécutives. Vaquer. Et puis, le mot « vacances » est voisin du mot « vaquer ». Vaquer, c'est s'occuper de quelque chose. Quand on ne fait rien, on ne vaque pas. On vaque à ses occupations, mais on ne peut pas vaquer à ne rien faire. Et c'est là une autre question importante pour déterminer les conditions de véritables vacances. Si son projet de vacances est de ne rien faire du tout, peut-on dire qu'il s'agira véritablement de vacances? Les vacances doivent absolument comporter un volet d'épaysement, sans quoi elles ne peuvent prétendre être des vacances. Mais, diront certains, le dépaysement ne passe pas toujours par le déplacement. Il n'est pas nécessaire de quitter la maison pour partir. Pardon? Ai-je bien compris? Comment voulez-vous partir si vous ne quittez pas la maison? Mais oui, on peut partir tout en restant sur place. L'important, c'est de libérer l'esprit. Le corps n'a pas nécessairement à se déplacer. Bon, admettons. Mais comment libérer l'esprit? Il y a bien des façons. La lecture est un des moyens les plus faciles et à la portée de tous. Mais cela peut aussi se faire par le déplacement de ses centres d'intérêt. Passion. Accorder pendant une certaine période son intérêt total à quelque chose qu'on négligeait ou qu'on tentait d'oublier durant nos semaines de travail. Une de ses passions, par exemple. Oui, une de ses passions. Choisir dans le tas celle qui vous chatouille avec le plus d'insistance et lui laisser libre cours durant des jours sans tenter de juger si celle-ci est futile ou non, digne de vous ou non. Se laisser guider par elle, tout en sachant que ce n'est que temporaire et que, les vacances terminées, vous allez la remettre dans le placard. Voilà une belle activité de vacances. Libérer une passion emprisonnée le reste de l'année dans son esprit. Vivre une passion, la laisser s'exprimer quelques jours, une semaine s'il le faut. Comme à l'Halloween, endosser un déguisement. Se transformer en quelqu'un d'autre, pour un temps bien limité. Cela constituerait une autre caractéristique essentielle des véritables vacances. Procurer du repos. Permettre de se refaire. Libérer une passion en lui permettant de vivre pleinement et intensément durant un court laps de temps, cela peut alléger la tête de celui qui la porte durant 50 semaines sans pouvoir la déposer quelque part. Ce projet, il pourrait alors répondre à cette exigence vacancielle. Les vacances doivent être attendues, espérées. On doit soupirer après elles. On supportera beaucoup plus facilement une passion qui se lamente dans sa prison intérieure si on a planifié de la laisser prendre le large pendant 2 semaines durant l'été. C'était « Les vacances, quelles vacances ?», un texte de René Lachaine, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir.